Je demanderai de tourner avec moi dans Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15. On va lire les derniers versets de ce chapitre, à partir du verset 22. Et une phrase qui se trouve vers la fin, auquel on va s'attacher, mais déjà avoir le contexte immédiat. Après qu'ils aient chanté un chant envers le Seigneur pour la délivrance qu'il leur a apportée du pays d'Égypte, à partir du verset 22, il nous dit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, ils campèrent là près de l'eau. Cette dernière phrase du verset 26, car je suis l'Éternel qui guérit, littéralement Jéhovah, Jéhovah Rapha. Et qui littéralement veut dire l'Éternel qui guérit. Et quel réconfort que du fait que Dieu a déjà tous ces différents titres, qu'il n'est pas juste Dieu de justice, mais qu'il a tous ces différents titres, dont celui-ci. C'est pas juste qu'il a la capacité de guérir, mais qu'il prend plaisir à guérir. Et on va considérer ce passage aussi bien dans son contexte direct ainsi que ce qu'il peut nous apprendre pour nous aujourd'hui ce matin. Le fait que Dieu se présente à son peuple comme étant le Dieu qui guérit n'était pas une vérité pour le peuple d'Israël seulement, c'est quelque chose qui continue parce que c'est une description de la personne de Dieu. Il ne dit pas simplement « Je suis le peuple qui veut guérir seulement Israël », mais « Je suis Jéhovah Rapha ». C'est qui je suis? Et je suis ce Dieu-là pour toute personne qui m'appartient. Et donc cette vérité, elle est vraie pour nous encore aujourd'hui, parce que ça parle de qui il est plus que de son peuple. Et tout comme Dieu révèle son caractère en disant qu'il est amour, ou qu'il est bon, ou qu'il est compatissant, ou comme on le voit dans tellement de passages dans les psaumes, entre autres, qu'il est miséricordieux. Et ici, il dit, je suis le Dieu qui guérit. Ce n'était pas quelque chose qui était juste pour le peuple d'Israël seulement, c'est quelque chose qui est vrai pour toute éternité, parce que c'est qui il est et il ne change pas. La façon que Dieu pourvoit aux besoins d'Israël à ce moment précis avec les eaux de Mara, pour moi, est un bon exemple de ce que Dieu fait encore pour nous aujourd'hui et de la façon qu'il aime prendre soin de son peuple et qu'il aime guérir quand on a besoin d'être guéri. Et j'avoue que je prends toujours plaisir à voir les différentes façons que Dieu utilise pour prendre soin de ses enfants. Souvent, il utilise une source ou une manière ou une façon de faire qui semble logique et d'autres fois, pas logique du tout. Et parfois, il le fait de façon extrêmement miraculeuse et parfois, il utilise des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais ça me rappelle qu'à chaque fois que Dieu n'agit pas envers nous, selon, heureusement, notre logique. Et où il n'agit pas envers nous selon notre façon de penser. Et heureusement qu'il n'agit pas toujours envers nous selon même la mesure de notre foi. Parfois oui, mais pas toujours. Mais il agit toujours envers nous selon sa volonté. Peu importe si on comprend le pourquoi et le comment de la chose. Dit, voici ce que j'ai établi, voici la manière que je veux faire. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que tu acceptes cela? Vous aurez remarqué au verset 26, avant qu'il dise cela, tous les si, toutes les conditions, dit, si tu acceptes, si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes, Si tu observes, alors je ne ferai aucune de ces choses. Mais ensuite, il dit, car, parce que, la raison du pourquoi, à cause de qui je suis l'Éternel qui te guérit. Et le verset 22, hein, nous dit que ça fait 3 jours qu'ils sont en train de marcher sans avoir eu d'eau à boire. Il dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il partit de la direction de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert. Donc il précise bien, ce n'est pas 3 journées de marche dans la forêt, etc., dans le désert, sans avoir d'eau à boire. Déjà 3 jours sans boire, c'est assez difficile, même dans des conditions plus ou moins ordinaires. Mais en plus, 3 jours de marche dans le désert, on peut comprendre la fatigue ainsi que la lassitude et les mauvaises humeurs et le mauvais caractère qui surmontent dans le peuple, et pourquoi on les voit commencer à murmurer contre Moïse. Il dit, mais que boirons-nous? On comprend la question. Et ce n'est pas un hasard qu'ils sont passés 3 jours sans boire non plus. Ce n'est pas que, ah ben, c'est pas comme nous, ah, j'ai oublié d'arroser la plante, ou j'ai oublié de donner de l'eau au chien. Non, Dieu n'avait pas oublié de pourvoir à ce besoin envers son peuple. Mais comme on va le voir tout à l'heure, il l'a dit, c'est dans ce lieu qu'il a également mis à l'épreuve son peuple. Il avait sa raison. Il n'a pas besoin d'expliquer pour que ça ait un sens envers nous. Il a ses raisons de pourquoi il permet ces choses. Dieu connaissait les conditions et il voulait enseigner à son peuple une leçon qu'ils avaient besoin d'apprendre. Ça fait 3 jours qu'ils marchent dans le désert et je pense qu'on peut faire le parallèle que de la même manière qu'ils marchent dans le désert avec ce sable et ce sol qui est sec, desséché, craquelé, qui est dur, que leur cœur aussi était toujours, malgré le fait que Dieu vient de les délivrer des Égyptiens, de l'esclavage, que leur cœur est quand même toujours assez sec et dur envers leur Dieu. Juste avant, dans le chapitre 14, ils viennent de traverser la mer Rouge, ils viennent de voir avec leurs propres yeux Pharaon et son armée engloutis par les eaux. Et tout le reste du chapitre 15 de notre passage, juste avant, est un chant de louange et d'adoration basé rien que sur ce moment-là, du moment qu'ils traversent la mer Rouge et de voir Pharaon englouti. Mais 3 jours après, les voilà qui commencent à murmurer. Et on voit que c'était quelque chose qui allait être récurrent dans leur marche à travers le désert. Dieu pourvoit. Quelques instants plus tard, ils murmurent encore. Et ils voulaient déjà, d'ores et déjà, dès le début, leur apprendre une leçon, que je vais prendre soin de vous. Ça ne va pas toujours être facile, il y aura des moments désagréables, mais je suis là. Je ne vous ai pas fait sortir d'Égypte pour rien. Je ne vous ai pas fait sortir de l'esclavage juste pour vous faire laisser périr, comme vous allez le dire et le répéter à travers vos plaintes. Mais je vais prendre soin de vous, parfois de façon miraculeuse. Et il voulait les enseigner que malgré leur liberté, qu'ils vont devoir passer par des épreuves, que ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus esclaves des Égyptiens que maintenant la vie est belle. Ils vont avoir des difficultés avant d'arriver et de prendre possession de cette terre promise. Mais il voulait également les enseigner que malgré toutes ces difficultés, malgré les obstacles, il sera avec eux, il prendra soin d'eux. Je suis l'Éternel qui guérit. Et j'aimerais qu'on regarde très facile, rapidement, à trois façons, trois endroits que Dieu guérit ses enfants aujourd'hui, si on veut bien le laisser faire. Déjà, Dieu guérit en utilisant nos circonstances. Et on ne peut pas dire qu'il va guérir nos circonstances, mais il va utiliser nos circonstances pour notre bien. Comprenons bien que Dieu ne va pas toujours changer ou enlever nos circonstances. Mais Dieu peut toujours utiliser nos circonstances pour notre bien, si on lui garde notre soumission, notre cœur, notre foi en lui. Rappelez-vous, à travers les différentes histoires qu'on a à travers la Bible, Dieu n'a pas enlevé Goliath, mais il a donné force et courage à David. Il n'a pas enlevé les flammes, mais il a permis à Shadrach, Meshach et Abednego de pouvoir être parmi les flammes sans se faire atteindre, sans souffrir, sans se faire brûler. Dieu n'a pas enlevé la tempête, mais il a permis à Pierre de marcher sur l'eau quand même. Il n'a pas enlevé les obstacles, il n'a pas enlevé les difficultés. Dieu n'a pas changé, fait le miracle de transformer les lions en chatons quand Daniel était jeté dans la fosse. Mais il a permis de pouvoir y passer la nuit sans être attaqué, sans être en danger. Dieu ne va pas toujours enlever l'obstacle comme on le lui demande si souvent. Il ne va pas toujours même changer l'obstacle. Bien souvent, c'est nous qu'il va travailler. C'est notre cœur qui va vouloir changer pour pouvoir faire face et traverser l'épreuve d'une manière qui nous aidera à en ressortir plus fort, plus mûr et sans regret. Et il va nous aider et nous donner la force et le courage pour faire face aux géants, de pouvoir faire face aux tempêtes, à la fournaise et au lion, qu'on en ressortira pas seulement indemne, mais grandi, mûri, enrichi, encouragé. Chose qui n'aurait pas été possible si Dieu avait tout simplement répondu à la requête qu'on avait si souvent donnée d'enlever la difficulté. Essayez de vous mettre à la place du peuple d'Israël à ce moment précis. Il marche encore dans le désert. C'est pas juste des hommes forts, il y a des femmes, il y a des enfants de tout âge, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont peut-être blessées. Pas tout le monde marche à la même allure, mais il marche, tout le monde, sans exception, a besoin d'eau. Moi, je veux bien, en tant que parent, je veux bien faire sans eau pour que mon enfant en ait, mais je fais sans et lui doit faire sans aussi. Et je dois le voir souffrir à travers cela. Toujours pas d'eau. Leur esprit, leur pensée n'ont qu'une chose en tête. Trouver de l'eau. Il nous faut de l'eau. Après la première journée, bon, peut-être demain on trouvera. Deuxième journée, ça devient difficile. Troisième jour, là, ça suffit. Moïse, que boirons-nous? Ça ne peut pas continuer comme ça. Il nous faut de l'eau. Il faut de l'eau. Rien d'autre n'est important. Et voilà qu'ils voient enfin une source d'eau. Ils arrivent à Mara. On peut imaginer leur joie, on peut imaginer les yeux souffrir, on peut imaginer les forces revenir juste en disant, elle est juste là. Et elle va me redonner vie, elle va me re... Voilà ce qu'on recherchait depuis tout ce temps. Leur redonner force dans leur corps, juste à la pensée de boire cette eau. Et voilà que rien qu'à la première gorgée, elle est amère, elle est imbuvable, elle est infecte, elle est tellement mauvaise qu'ils n'essayent même pas de prendre une deuxième gorgée malgré à quel point ils ont soif, malgré la fatigue. Elle est vraiment trop mauvaise, c'est ce que ce mot para veut dire, amère et infecte. Quelle déception! Après 3 jours où, j'imagine, toute cette troisième journée, ils ont que ça en tête. Rien d'autre n'est important, il nous faut absolument boire, sinon on ne peut pas continuer. Et ils trouvent enfin de l'eau, et ça y est, on a la réponse à notre besoin, on a la réponse, la solution à notre problème. Et quelle déception. On peut imaginer, allant d'un grand besoin à une grande joie, à une encore plus grande déception. Pas étonnant de les voir se plaindre. Qu'allons-nous boire? Et que fait Moïse? Verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Cria à l'Éternel. Moïse sait que lui ne peut rien faire, qu'il est limité dans ses capacités. Qu'est-ce que vous venez me demander à moi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, exactement ce qu'il a fait. Tuer l'homme que Dieu a mis en place pour nous diriger, pour être le médiateur entre nous et Dieu. Alors, prie pour nous. Et c'est ce qu'il a fait. Il crie à l'Éternel. Et après avoir répondu à leurs besoins, Dieu se révèle à eux en disant qu'il est le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit. Autrement, il dit, je prendrai soin de vous. Je vous aime, mais dans mon amour, je veux vous aider à apprendre certaines choses. Mais sachez que même dans les moments difficiles, je suis là. Je ne vous ai jamais abandonné. J'ai toujours eu connaissance de vos besoins et je prendrai soin de vous. Il est en train de leur enseigner, de les apprendre ce que nous, on a toujours besoin de comprendre aujourd'hui, que je ne changerai pas toujours vos circonstances, mais je pourrai toujours utiliser vos circonstances pour que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je peux comprendre, il va dire, la peine, je peux comprendre votre déception d'avoir ce qui semblait être la réponse à leurs besoins, d'être si près, littéralement la coupe à leurs lèvres, juste pour que quelqu'un la claque des mains et dit non, bois pas, ça va être pire. Cette eau qui est trompeuse, elle est imbuvable. Quelle tristesse, quelle déception. Mais est-ce que ça ne nous arrive pas toujours, nous, aujourd'hui, dans notre vie, dans notre quotidien? Quand nous avions un grand besoin, on voit enfin ce qui semble être la solution, mais elle nous est enlevée à la dernière minute. Combien il est difficile de réagir correctement dans ces situations-là, dans ces moments-là. Par exemple, nous avons un problème de santé récurrent qui revient régulièrement et les docteurs savent pas quoi faire. Puis voilà que semble enfin un médicament qui semble faire l'affaire voulue et l'effet voulu, juste pour réaliser qu'en fait, compte, non. C'était juste une réaction initiale au début, puis tout est revenu comme avant. Rien n'a changé. Et on se retrouve au plus bas. On est déçu. Ou encore, cet ami en qui vous aviez l'habitude de vous confier, qui vous aidait si souvent dans le passé, vous aviez besoin de lui encore aujourd'hui, mais vous ne trouvez pas l'aide que vous pensiez recevoir. Et vous dites, ah, je vais voir tel ou tel, il a toujours été là pour moi. Mais là, rien. Ou encore, ce compte épargne qui vous donne une certaine mesure de sécurité et de réconfort contre les imprévus. Mais voilà qu'après une série d'événements hors de votre contrôle, votre compte épargne est mis à zéro. Et maintenant, que dois-je faire? Parce qu'on aurait dû faire dès le départ, mettre notre confiance en Dieu et non dans nos comptes ou dans nos plans, dans nos projets, dans ce que nous pouvons faire, qu'on puisse utiliser ces choses, mais que notre dépendance se trouve dans la personne même de Dieu. Combien de fois nous nous sommes retrouvés au plus profond, ne sachant pas quoi faire, parce que on voyait bien qu'on ne pouvait rien faire pour changer les circonstances. Et Dieu a dit, je n'ai jamais demandé à ce que tu changes les circonstances. J'ai demandé à ce que tu traverses ces circonstances d'une manière qui me plaît, que tu puisses me faire confiance, que tu puisses grandir. Je n'ai jamais prévu, je n'ai jamais accepté à ce que tu puisses traverser une expérience quelconque dans le seul but de te détruire et de te faire du mal. Dieu nous dit, parfois, je changerai les circonstances pour toi, et parfois, j'utiliserai les circonstances pour toi. Mais l'un comme l'autre, il faut que tu me fasses confiance. Parfois, oui, je pourrais changer les circonstances, mais pas toujours. Dis-je, comprends bien que je suis le Dieu qui guérit, et je peux et je veux guérir, et te guérir de cette tristesse qu'a apporté cette déception, qu'a apporté cette circonstance. Nous voyons dans le verset 25, Dieu pourvoit l'eau que son peuple avait tellement besoin. Il dit, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que le peuple avait besoin de cette étape. Besoin de, si ce n'est autre chose, de voir Dieu pour qui il est. Comment pouvons-nous savoir qu'il guérit si on a jamais, si on n'est jamais malade? Comment savoir que Dieu pourvoit si on n'a jamais de besoin? Comment savoir qui Dieu est si on ne voit jamais le besoin d'avoir un Dieu qui est là pour nous et avec nous? Si on croit pouvoir être suffisant. Il suffit de dire pour l'instant que Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu saint, qu'il est amour, mais qu'il est également le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit. Il nous guérit en utilisant les circonstances. Il utilise les circonstances pour nous aider, nous enseigner, nous encourager, ainsi que pourvoir à nos besoins. Mais heureusement que Dieu ne se soucie pas seulement de nos circonstances, n'est-ce pas? Mais que Dieu prend plaisir à prendre soin de nous personnellement dans les besoins même de notre corps, de notre vie. Quand il dit qu'il est le Dieu qui guérit, il parle même de notre santé, de notre corps, de notre personne. Parce que oui, parfois Dieu guérit en empêchant tout simplement les maladies, en empêchant les accidents de nous atteindre pour commencer. Et combien de fois est-ce qu'il nous serait bon justement de nous rappeler dans nos prières, de le remercier de ce que justement nous sommes en bonne santé. Oui, mais j'ai une petite mal de gorge ou j'ai une mal de tête. Oui, d'accord, on a cela, mais est-ce que tu es cloué à l'hôpital? Où est-ce que tu t'infirmes? Où est-ce que... Et on pourrait continuer. Maintes autres choses que peut-être que l'adversaire aurait voulu nous faire, mais que Dieu dit non. Je ne te donne pas la capacité de l'atteindre. Non, j'empêche ceci. Et quand il dit oui, ça tu peux ou ça je veux, on le sait que c'est pour notre bien. Ça ne veut pas dire que c'est pour nous, que ça va nous faire plaisir, mais qu'il va utiliser même cela pour notre bien si on veut bien lui faire confiance. Parfois, Dieu guérit d'une blessure ou d'un mot qu'on s'est causé soi-même. Et ce n'est pas parce qu'on a été désobéissant, parce qu'on a prise de mauvaises décisions que Dieu dit, ben, là, je ne te guéris pas parce que c'est de ta faute, tant pis pour toi. Heureusement qu'il n'est pas comme cela. Combien de fois est-ce que Suzanne et moi, on sourit quand on entend des parents qui ont des petits-enfants et l'enfant tombe. Et là, avant de le dire, on se le dit, on sait ce que le parent va dire. Ah ben voilà. C'est un peu comme je t'avais prévenu. Et le parent l'a certainement fait. Il dit arrête de faire l'imbécile ou arrête de ceci ou cela, tu vas tomber. Et puis effectivement, et la première réponse est ben voilà. Ben, même si on souffre de quelque chose et que c'est notre faute, quel réconfort de savoir que Dieu nous dit, même si c'est de ta faute, je suis le Dieu qui guérit. Je t'aime. Je ne vais pas excuser ce que tu fais, mais je ne vais pas t'abandonner non plus, juste parce que c'est de ta faute. Parfois, nous avons besoin d'être guéris à cause du mal que quelqu'un d'autre nous a causé, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, t'inquiète pas, je suis là aussi. J'ai vu ce qu'on t'a fait. J'aurais pu l'empêcher. Mais là aussi, c'est des circonstances que j'ai permis parce que ça va être pour ton bien, si tu me fais confiance. Je suis le Dieu qui guérit. Et comprends et apprends mon amour et la paix que je donne et la consolation. Comment pouvons-nous apprendre ce que c'est que la paix et la consolation si on n'en a jamais besoin? Parfois, nous avons besoin d'être guéris parce que, ben oui, là, Dieu était obligé de nous corriger, n'est-ce pas? On s'est éloigné de lui, on a été désobéissant. Il a laissé venir, il nous a parlé, il nous a, à travers sa parole, à travers son esprit, il a essayé de nous ramener à lui, mais on s'est endurci le cœur. On n'a pas voulu écouter, puis ben là, je suis obligé de faire venir quelque chose de plus sérieux pour que tu fasses attention à moi. Mais jamais est-ce qu'il va nous permettre d'avoir mal sans également nous penser et nous guérir derrière aussi. Je t'ai corrigé parce que je t'aime. Il dit, je te guéris parce que je t'aime. L'un comme l'autre, c'est parce que je t'aime. Je suis plein de compassion et de miséricorde, mais je chéris ma relation avec toi. J'ai envoyé mon fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, pour que nous ayons cette communion, cette relation. Et quand tu t'éloignes, ça me fait mal. Quand tu t'éloignes, je ne peux pas négliger comme si c'était rien. Je veux te ramener à moi. Mais je te corrigerai jamais sans être là pour te restaurer et te guérir. Je suis le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit. Quand Israël n'avait rien pour boire pendant 3 jours, c'était, on peut le comprendre, tout leur corps qui souffrait. Quand ils burent l'eau de Marah, juste pour être déçus parce qu'elle était imbuvable, c'était maintenant leur corps et leur esprit qui souffrent, n'est-ce pas? Et Dieu pourvoit maintenant leurs besoins. Et c'est leur corps et leur esprit qui est soulagé. C'est leur corps et leur esprit qui est encouragé, qui est fortifié. Guérir, c'est le processus de pourvoir à un besoin dans le but de rétablir. Et si j'ai une coupure, ben je pourvois le pansement ainsi que la désinfection avant de mettre le pansement. La coupure est trop grande, ben là, il me faut des points de suture. Mais je pourvois au besoin selon le mal que j'ai. Si j'ai un autre problème, un mal d'estomac ou une fièvre, alors je pourvois le médicament nécessaire, mais toujours dans le but de soulager ainsi que de rétablir, me remettre sur pied. Et Dieu fait toujours pareil pour nous. Dieu sait exactement ce dont on a besoin, avec chaque mal que nous avons, chaque souffrance que nous devons endurer, chaque guérison qu'il apporte est personnalisée selon nos besoins. Et il apporte toujours exactement ce dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'on parle du fait que Dieu pourvoit quand nous sommes en train de parler du fait que Dieu guérit. Parce qu'il ne se contente pas de juste mettre un pansement, il voit tous les besoins que cela comporte. Quand on parle du fait que Dieu guérit, ce n'est pas juste qu'il enlève la maladie, c'est qu'il pourvoit aux besoins. Et c'est pour cela qu'il utilise cet exemple ici où il dit, il vient de donner à boire. Et il dit, je suis le Dieu qui guérit. Je pourvois et j'enlève le mot qui t'accable. Dieu donnera, pourvoira toujours le meilleur remède, peu importe ce qui nous fait mal et pourquoi ça nous fait mal, si ce que ce soit ma faute ou non. Regardez encore une fois comment Dieu a pourvu aux besoins d'Israël à Mara. Dieu aurait pu les mener tout de suite à un lieu où l'eau était bonne, n'est-ce pas? Dieu n'a pas fait d'erreur. Ah, je vous ai envoyé là, je ne me rendais pas compte que l'eau était imbuvable. Dieu aurait pu changer l'eau à Mara pour qu'elle soit bonne avant qu'ils arrivent. Qu'est-ce qui aurait empêché à ce que Dieu fasse cela? Mais à la fin du verset 25, il nous dit bien, ce fut là qu'il, Dieu, mit le peuple à l'épreuve. Parfois, Dieu aurait pu empêcher à nous aussi à ce qu'on ait mal, à ce qu'on ait cette peine. Mais il a trouvé bon qu'on en fasse l'expérience pour nous aider d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pour aucune autre raison, pour qu'on fasse l'expérience de voir Dieu changer une expérience amère, désagréable, et de la transformer en quelque chose de doux et de rafraîchissant. Ce n'est pas juste une petite soif que ce peuple a connue, ce n'est pas juste une petite déception non plus, et ce n'est pas juste une eau qui était un tout petit peu amère. Ce n'est pas un tout petit rafraîchissement de pouvoir enfin boire de cette eau. C'était une grande délivrance. C'était prévu que cette expérience les marque et les aide dans le futur à faire confiance en l'Éternel. Ils auraient pu, depuis ce moment-là, toujours faire référence. Rappelez-vous des eaux de Mara. Rappelez-vous ce que Dieu a fait aux eaux de Mara. Dieu a pris soin de nous. C'était fait pour que ce moment marque leur esprit. Ils étaient au début. Ils viennent à peine de traverser la mer Rouge. Ils viennent à peine de voir ce que Dieu a fait pour eux. Il dit, moi, je sais ce qui vous attend. Je sais ce qui vous attend entre ici et la terre promise. J'essaye de vous dire d'ores et déjà, malgré ce que vous allez faire face, les difficultés, les déceptions, je ne vous abandonnerai pas. Je suis là. Je pourvoirai à vos besoins. Je vous encouragerai. Vous n'y êtes pas seul. Et pour terminer, je suis obligé, j'avance un peu. Je me dois de parler du fait que Dieu ne se satisfait pas de guérir. D'utiliser les circonstances pour notre bien, de guérir notre corps, mais je suis obligé de parler du fait que Dieu s'intéresse toujours et bien plus à notre santé spirituelle que toute autre chose. Et Dieu guérit notre âme. Et j'aime cette partie-là parce que je trouve que Dieu va venir et guérir les besoins de notre âme en opérant de manière similaire à ce que je le vois faire ici aux eaux de Mara. Comment? Je suis content que vous ayez demandé. D'abord, il a laissé le peuple se rendre compte pour eux-mêmes que l'eau à Mara était amère et imbuvable. Il ne les a pas prévenus, il n'a rien changé, il n'a rien fait. Il a laissé l'espoir grandir pour que la déception vienne. Et cette eau ne pouvait pas satisfaire à leurs besoins, ils le savaient. Cette eau a même rendu leurs difficultés, leur soif pire qu'avant à cause du faux espoir qu'elle a procuré. Mais après avoir bu, après avoir réalisé qu'elle n'était pas bonne, et après avoir également obéi, Dieu a pu changer cette eau amère en eau douce. Et de la même façon, je vois que nous avons besoin de réaliser, chaque homme a besoin de réaliser que pour nous-mêmes, que oui, nous sommes pécheurs, que notre âme est amère devant Dieu, que nous avons le péché dans notre cœur et dans notre vie, de par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour rendre notre cœur pur, pour nous rendre juste devant Dieu. On doit réaliser cela pour nous-mêmes. On aura des personnes dans notre témoignage qui nous le diront, mais on doit en venir à notre propre conclusion. C'est vrai. Mon cœur est mauvais. Mon cœur ne mérite pas. Je ne mérite pas d'aller au ciel. On doit d'abord s'en rendre compte pour que nous aussi, comme Moïse, voir le besoin de crier à l'Éternel, demander à Dieu ce que lui veut qu'on fasse, pour ensuite obéir. D'ailleurs, cette obéissance, Dieu savait qu'elle ne plairait pas à tout le monde, qu'elle ne semblerait pas logique, mais encore une fois, comme il dit au verset 25, que ce fut là que Dieu mit Israël à l'épreuve. C'est là où Dieu met l'homme à l'épreuve. Toute personne qui voit son cœur et son âme être comme les eaux de Marah, amères et impures, incapables d'aucune bonne chose, pour ensuite demander à Dieu de les sauver. Dieu dit, crois en moi. C'est tout ce que je demande. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il devait faire? Jette ce bois dans l'eau. Ça suffit. Humainement, notre logique, ça n'a aucun sens. Pas de rituel à avoir. Pas fait cela et attends jusqu'au soir ou attends au lendemain, parce que ça n'a rien à voir avec le bois, mais ça a tout à voir avec Dieu. Sa volonté et notre obéissance à sa volonté, de ne pas remettre en question ce que lui nous dit de faire. Et l'eau devint douce. Je crois qu'il a fait exprès de ne pas dire quel genre de bois, vous savez, qu'il savait très bien comment nous sommes dans notre façon d'être, qu'on mettrait beaucoup trop d'importance sur. Oh, si c'était un bois de sycomore, ou si c'était un bois de cyprès, ou si c'était un bois de ceci, alors ce bois-là, il a des qualités exceptionnelles. Non, parce que ça n'a rien à voir avec le bois. Il ne nous a pas dit quel genre de bois, parce que ce n'est pas le bois, c'est Dieu qui fait la différence. Dieu aurait pu dire à Moïse de jeter une pierre, ou de jeter du sable, il aurait pu dire jette ton soulier, aucune différence. Et l'eau aurait devenu douce. Aujourd'hui, pour répondre à l'homme qui a soif du salut, qui veut savoir comment être sauvé, Dieu dit, crois au sacrifice de Christ. Rien de ce que tu peux faire de par toi-même changera quoi que ce soit. Mais ce que Christ a fait pour toi fait toute la différence. Lui qui a été cloué sur ce bois, sur cette croix, lui qui est ressuscité pour que tu puisses avoir la vie à travers lui, cela suffit. Vous pouvez imaginer Israël devant l'eau à Marah? Ils viennent d'être déçus et peut-être avaient-ils encore le goût amer dans la bouche. Et Moïse leur dit, c'est bon, buvez encore. J'ai jeté le bois, vous pouvez aller boire. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui hésitaient. Mais il y a dû y avoir, au moins au début, un petit groupe, quelques personnes. Je dis, j'y vais. Je me rappelle ce que Dieu a fait en Égypte, je me rappelle ce qu'il vient de faire à la mer Rouge. J'y vais, j'essaye. Et quand ils ont donné leur témoignage, c'est vrai, elle est bonne, venez. Ceux qui hésitaient, ils ont dû accourir, dit ouais. Ils ont eu d'abord ces quelques premières personnes qui ont donné confirmation. Mais ces premières personnes ont dû s'avancer par la foi. Et les autres, par leur témoignage, ils ont pu aller et profiter de cette eau douce et rafraîchissante. Et au lieu de se dire, quoi? Il veut encore que je boive de cette eau amère? Non, non, ouais. Dieu nous dit aussi, aujourd'hui, je sais que ça peut paraître facile. Je ne demande pas des œuvres, je ne demande pas des sacrifices, je demande un cœur contrit, humble, qui place sa foi en moi. Si tu as du mal à croire, écoute le témoignage de ceux qui sont venus avant toi. Écoute ce que j'ai fait dans leur vie. Écoute ce qu'ils ont à dire, que nous, on puisse être là pour dire, oui, c'est vrai, mon cœur était amer. Je n'avais rien d'aimable, mais Dieu m'a aimé. Je suis venu à Christ et il m'a sauvé de mes péchés. Pour donner cet encouragement, donner ce témoignage pour que ceux qui hésitent encore disent, oui, je vais y aller moi aussi. Je vais croire, je vais faire le choix de faire confiance en ce que Dieu me dit. Vous pouvez aller à lui sans souci, sans crainte. Buvez, comme la Bible nous dit, de l'eau de la vie, c'est Christ. Et vous n'aurez plus jamais soif. Vous connaissez peut-être Jean 7, 37, où Christ était dans le temple le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ou en Jean chapitre 6, versets 32 et 35, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez la différence entre venir et croire aussi. Viens à moi. Tu n'auras jamais faim, mais si tu crois en moi, tu n'auras plus jamais soif. Je suis l'eau de vie. Je ne suis pas amer. Tu ne seras pas déçu. Je donnerai la guérison que ton âme a besoin. Comme Israël à Mara devait réaliser que leur salut ne venait pas de cette eau, mais elle venait de Dieu qui s'occupera d'eux. Nous devons réaliser que notre salut ne peut venir de nous non plus, et seulement de Dieu. Dieu veut et désire nous guérir, et surtout par-dessus tout de nos péchés. On le sait qu'il a même envoyé Christ pour souffrir, être rejeté, et enfin mourir pour nous. Pas seulement pour que nous ayons une vie meilleure, n'est-ce pas? Mais pour que nous soyons guéris une fois pour toutes de notre péché. Il faut d'abord qu'on réalise que nous sommes pécheurs, que notre salut ne peut se trouver en aucun autre que lui. Nos œuvres, on le sait, on devrait au moins s'en rendre compte, nos œuvres sont corrompues, sont inutiles devant Dieu. Seule l'œuvre parfaite de Christ sur la croix est suffisante. Il nous suffit de croire. Si vous avez du mal à croire, alors écoutez les témoignages des personnes qui sont tournées à la source pour boire et voyez leur joie, et voyez leur paix, voyez comment Dieu les a guéris du fardeau de leurs péchés. Et croyez-vous aussi. Moïse cria à l'Éternel et nous devons prier à Dieu. Mais comme Moïse, ce n'est pas la peine de prier si vous ne croyez pas. Ce n'est pas la prière de celui qui doute qui est efficace, n'est-ce pas? C'est la prière de la foi qui fait la différence. Jacques chapitre 5, versets 13 à 16 nous dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il est le Dieu Rapha, le Dieu qui, pas seulement peut, mais qui prend plaisir à guérir. On n'est pas en train de lui demander de faire quelque chose qui va contre sa volonté, contre son cœur, contre qui il est. Il attend avec impatience à ce que on lui demande justement, qu'on lui fasse confiance. Nous devons remplir nos prières avec la foi avant que Dieu puisse remplir notre cœur avec sa paix. Vous aurez remarqué que Dieu a utilisé quelque chose qui était en dehors, n'est-ce pas, et non similaire de l'eau pour la rendre douce. Hein? Il dit « jette un bois dans l'eau », il a dit. Il n'a pas dit d'enlever quelque chose de l'eau, il n'a pas dit d'ajouter de l'eau douce pour et le reste sera potable, mais une chose extérieure de l'eau pour la rendre douce. Je me dois de renforcer ce point parce que c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous avec notre péché. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le fait d'enlever quelque chose en nous, d'arrêter de pécher et de commencer à faire des bonnes œuvres, d'arrêter de faire, mais on doit recevoir Christ. On doit recevoir, accepter que le sacrifice de Christ soit meilleur que quoi que ce soit que je puisse faire moi pour essayer de rendre mon cœur moins pécheur, moins pécheresse. Christ est le seul. Seul le sang de Christ peut me purifier mon cœur et mon âme. Pasteur Dollard a partagé un passage en 1 Pierre, un autre passage en 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19, nous dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Notre argent, nos œuvres ne peuvent rien faire pour changer notre état. Mais le sang de Christ fait toute la différence. Dieu a dit à Moïse, jette quelque chose qui soit en dehors de cette eau. Prends ce bois, jette-le, et elle sera douce. Il dit, votre cœur est amer comme cette eau de Mara. Acceptez Christ, et ça fera toute la différence. Je ne dis pas que c'est ce qu'il disait au peuple d'Israël à ce moment-là, mais on peut faire le parallèle pour nous aujourd'hui. Quand le peuple vit que les eaux de Mara étaient amères, ils n'ont pas essayé de trouver une solution humaine. Il n'y en avait pas. Quand le peuple s'est plaint devant Moïse ne s'est pas dit, oh, il faut que je trouve une solution. Non, tout de suite, Seigneur, il a crié à l'Éternel. Il a compris que Dieu était la seule solution et que nous devons comprendre que Dieu est notre seule solution. Alors ne perdons pas de temps à chercher ailleurs, à trouver une solution humaine à un problème divin. Pour conclure, n'oublions jamais, peu importe les médicaments que je prends, je les prends, mais c'est Dieu qui guérit. Parfois, on dit qu'il faut sortir, marcher, profiter du beau temps, ça te fera du bien, ça te remontera le moral, n'est-ce pas? Mais même là, c'est vrai, mais n'oublions pas, le soleil, le vent, la chaleur sont à lui. Les plantes utilisées dans notre médecine sont à lui, créées par lui. Les médecins qui préparent les médicaments ont reçu la science et la connaissance, parce que Dieu leur a donné la capacité. Les chirurgiens qui opèrent, n'est-ce pas Dieu qui leur a donné ce talent, cette capacité, cette connaissance aussi? Oui, ils ont fait des études. Je peux faire les mêmes études, toujours pas faire ce qu'ils font. Dieu ne m'a pas donné cette capacité de compréhension pour faire ce qu'ils font. Et même si eux, ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui leur a donné cette capacité, ça n'en reste pas moins vrai quand même. Je peux remercier mon médecin, et je le fais, mais je ne dois jamais également oublier mon vrai guérisseur, Dieu, l'éternel Rapha. Dieu guérit, mais comme n'importe quel docteur, il ne peut pas forcer le patient à prendre le médicament qu'il faut, n'est-ce pas? Combien de médecins ont donné la bonne prescription et les personnes ne sont jamais allées le chercher? Ou ils sont allés le chercher, mais ils ne l'ont jamais pris et utilisé. Et Dieu veut utiliser nos circonstances pour notre bien. Dieu veut pourvoir à nos besoins, nous consoler, nous guérir. Dieu veut par-dessus tout nous sauver de nos péchés. Mais nous devons venir à lui, vouloir boire de son eau. Nous devons accepter qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a de guérison nulle part ailleurs, que Dieu peut changer ce qui est amer dans ma vie et la rendre douce. Dieu peut changer ce cœur qui est méchant et tortueux par-dessus tout et la rendre conforme à sa volonté, en faire un cœur de serviteur au lieu de rester un cœur orgueilleux. Dieu peut et veut changer les circonstances qui normalement m'apporte l'amertume dans ma vie et les rendre douces et utiles. Dieu peut et veut changer les choses dans lesquelles je ne prenais aucun plaisir avant et faire en sorte qu'aujourd'hui, que je les aime. Ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, oui, j'ai soif de la parole de Dieu, j'ai soif de sa présence, j'ai soif de faire sa volonté. Vous connaissez peut-être les passages en psaume 63 et 42. Dis, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau, ou comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ce n'a pas toujours été mon cas, mais ce devrait être mon cas aujourd'hui. La seule différence est d'avoir cette toute petite foi si simple. Croire que Christ a fait la différence, croire que le sacrifice de Christ suffit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas mes œuvres, c'est Christ et Christ seul. Prions, s'il vous plaît.